Vous êtes sur RTL. Là. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir d'accompagner vos samedis matins de 9h15 à 10h sur RTL. Nous voilà bien. Eh bien, c'est le magazine qui vous veut du bien, justement. Alors, suivez-moi et recevez notre joyeuse corbeille d'astuces, de bons conseils, de gourmandises. Allez hop, c'est parti pour le sommaire. Soupçonné d'être coûteux, intrusif et possiblement nocif pour la santé, le nouveau compteur Linky n'en finit pas de faire parler de lui. Ce petit boîtier jaune fluo, censé faciliter le relevé de notre consommation d'électricité, doit-il nous inquiéter? Dans un instant, Olivier Chaland-Belval, le médiateur national de l'énergie, démêle le vrai du faux. Tout, vous saurez tout sur le Linky. Cuisine, WC, salle de bain, quels produits d'entretien garantissent un nettoyage optimal du logis tout en préservant notre santé et l'environnement? Sylvie Metzeler, journaliste à 60 millions de consommateurs, a mené l'enquête et nous dévoile le hit parade des nettoyants ménagers. C'est la saison de la prune et je ne vous parle pas ni du Dijon qui fait mal à la tête, ni de la contravention déposée sous l'essuie-glace de votre voiture. Non, je vous parle tout simplement de la belle Mirabelle, de l'aristocratique Reine Claude et de la Quetsche. Crêle prune choisir et comment les cuisiner? Réponse avec la cuisinière et journaliste Sonia Esguignan qui a plus d'un tour dans son prunier.
Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes, le matin, tu m'allumes.
Alors, on va voir si vous allez nous allumer. Bonjour, Olivier Chaland-Belval.
Bonjour, Flavie Flamand.
Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes médiateur national de l'énergie. Vous avez donc deux missions. L'information des consommateurs d'énergie, c'est bien parce qu'on va vous poser des questions, et l'aide au règlement amiable des litiges par la médiation. Eh bien, il y en a eu quelques-uns des litiges, mais on va y revenir dans un instant. Dites-moi juste d'abord, pourquoi est-ce qu'on nous a changé notre compteur d'électricité et quel est l'avantage du fameux Linky par rapport à notre ancien compteur ?
Alors, les deux compteurs permettent d'enregistrer la consommation d'électricité. Mais l'ancien compteur, le compteur électromécanique, il fallait que quelqu'un se déplace pour venir constater quel était le chiffre inscrit et quelle était votre consommation. Alors, du coup, il fallait relever 35 millions de compteurs et cette relève se faisait une fois tous les 6 mois et en réalité plutôt une fois par an. C'est-à-dire qu'on connaissait sa consommation réelle d'électricité à la fin de l'année. Et qu'on n'avait pas, tout d'un coup, on découvrait qu'on avait consommé beaucoup d'électricité.
Oui.
Et on avait quelques mauvaises surprises. Et par ailleurs, pour un produit comme l'électricité, par exemple, pour le téléphone, on n'imagine pas d'être facturé à la fin de l'année sur sa consommation de téléphone. Alors, le compteur communicant, bah, il compte comme le précédent, mais il communique avec le système d'information du gestionnaire de réseau de distribution, qui lui peut connaître la consommation réelle et qui, chaque mois, donne aux différents fournisseurs d'électricité la consommation réelle de leurs clients.
D'accord. Est-ce qu'un compteur similaire est déployé à l'étranger ou est-ce qu'on est les seuls, nous, en Europe, à être concernés par le Linky ?
Alors, pas du tout. Alors, ils ne s'appellent pas tous Linky, mais des compteurs communicants, il y en a 900 millions qui sont déjà installés dans le monde. Mm-hmm. Vous en avez donc 200 millions qui sont installés en Europe. Et l'installation de ces compteurs, elle est achevée déjà en Espagne, en Italie, en Suède, en Finlande. Elle est en cours au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Grèce. Et il y a une directive européenne qui prévoit que tous les compteurs communicants doivent être déployés d'ici la fin de l'année 2024.
Ok, donc on en est où en fait concrètement là, au niveau du déploiement du compteur dans l'Hexagone ?
Alors, dans l'Hexagone, il y a aujourd'hui, d'après les chiffres qui sont donnés par Enedis, il y a 30 millions de compteurs qui sont déjà installés. Et l'objectif est, d'ici la fin 2024, d'avoir remplacé 100% de ces compteurs.
Est-ce que j'ai le droit de le refuser, le compteur Linky ?
Alors, non, vous n'avez pas le droit. En réalité, les compteurs sont la propriété des collectivités locales qui sont les concédantes, les autorités concédantes d'énergie, d'électricité, et c'est délégué au gestionnaire de réseau, donc en général à Enedis, et c'est lui qui a en charge la mission non seulement de gérer le réseau, mais également d'assurer le comptage de la consommation. Donc c'est lui qui est responsable de et qui finance d'ailleurs les compteurs et qui donc est responsable de cette mission de développement, de déploiement des compteurs communicants.
Bon, en tout cas, c'est vrai que si je vous pose la question, c'est qu'on peut parfois s'interroger. On a entendu que le Linky faisait flamber la facture d'électricité. Alors, je vais vous avouer quelque chose de personnel. On m'a équipé, moi, d'un Linky et j'ai été très surprise de la facture que j'ai reçue.
Alors, en réalité, on vous aurait installé un nouveau compteur pas communicant, un nouveau compteur électromécanique comme celui que vous aviez, vous auriez probablement constaté la même chose. Parce qu'en réalité, les compteurs électromécaniques étaient installés, ont été installés quelquefois dans les années 50, hein, et vous avez une roue dentée qui tourne. Eh bien, au bout d'un certain nombre de dizaines d'années, les dents s'usent et la roue tourne plus lentement. Et en tournant plus lentement, eh ben, elle compte moins de consommation d'électricité. Alors, le jour où on vous met un nouveau compteur, aujourd'hui, on constate ça avec le compteur Linky, puisque c'est les compteurs Linky qu'on installe, eh ben, c'est la vérité de la consommation. Et en réalité, ça traduit le fait que votre consommation précédente n'était pas la bonne.
Alors, et en même temps, pardonnez-moi, hein, mais bon, comme vous êtes médiateur, vous devez être habitué à ce genre de questions. Mais Olivier Chaland-Belval, est-ce que ça n'était pas justement à vos services de vérifier l'état de mon compteur au moment où il fonctionnait au ralenti? Parce que c'est pas moi qui vais vérifier que mon compteur fonctionne normalement.
Personne ne vous accuse d'ailleurs d'avoir moins.
Bah non, mais ma note tout à coup, comme celle de beaucoup de Français, s'est retrouvée, je sais pas, elle a dû doubler. C'était très impressionnant.
Alors le médiateur, lui, n'intervient que sur les litiges dont il est saisi. Et on a été saisi d'ailleurs de quelques-uns, pas beaucoup, mais on a eu quelques consommateurs qui nous ont saisis justement en disant ma consommation a augmenté, très fortement à la suite de l'installation du compteur Linky. Et il y a plusieurs solutions. On peut, dans certains cas, quand il peut y avoir un doute, on peut aussi demander qu'il y ait un contrôle du nouveau compteur. Soit on dépose le compteur et on en repose un nouveau.
D'accord.
Soit on fait vérifier les services de métrologie que le nouveau compteur fonctionne correctement. Mais c'est vrai qu'on avait identifié, bien avant la pose des compteurs Linky, on avait identifié ce problème, qui est un problème qui se posait déjà quand on installait un nouveau compteur électromécanique.
Bon, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Olivier Chaland-Belval. Encore des questions à vous poser, parce que on va démêler le vrai du faux concernant le compteur Linky, hein, parce que vous avez dû en entendre parler. Hein, on parle d'ondes mauvaises pour la santé, on parle même d'un compteur espion. Ce sera dans un instant avec vous. Après, on se détendra, on parlera de produits ménagers et puis on parlera de la prune, une bonne petite prune en fin d'émission. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
On est content ici de vous retrouver pour une nouvelle saison de Nous Voilà Bien tous les samedis de 9h15 à 10h. On vous livre plein d'informations pour que vous soyez un consommateur averti. On parle aujourd'hui de consommateur justement. Est avec nous Olivier Chaland-Belval et on parle du fameux compteur Linky. Le fameux compteur Linky qui est soupçonné d'être coûteux, intrusif, parfois nocif aussi pour la santé. On a compris en tout cas certaines choses grâce à vous Olivier Chaland-Belval, vous êtes médiateur national de l'énergie. On a compris qu'on ne pouvait pas refuser le Linky. Quand on se retrouvait avec une facture d'électricité salée, c'était lié en fait à la fatigue, je dirais, de notre ancien compteur et pas à l'installation d'un nouveau compteur, nous avez-vous dit. Vous nous avez expliqué aussi que l'on pouvait tenter de déposer des recours pour l'installation d'un nouveau compteur ou pour la vérification de notre consommation. Maintenant, on a entendu énormément de choses concernant ce fameux petit compteur qui va arriver, vous l'avez dit, d'ici 2024 dans tous les foyers français. Alors, on y va dans les questions, Olivier Chaland-Belval, parce que vous avez dû en entendre des rumeurs. Le Linky est-il un espion ? Parce qu'il y en a certains qui apposeraient du scotch sur leur compteur, car il y aurait une caméra espion. Vrai ou faux ?
Alors, c'est évidemment faux. C'est évidemment faux.
Enfin, sinon, vous pourriez vous rincer l'œil, hein,
J'ai pas été vérifié moi-même, mais en général, les compteurs Linky sont pas installés dans la salle de bain, dans la chambre, ils sont en général dans un placard.
Ça peut être passionnant, un placard.
Ça peut être passionnant, uniquement quand on l'ouvre et encore. Et en fait, le petit point lumineux qui s'allume par intermittence, c'est simplement un petit point qui, cette lumière, plus elle clignote rapidement, plus elle indique que la consommation d'électricité est importante.
D'accord. On dit qu'il a causé plusieurs incendies, notamment durant sa phase d'expérimentation, mais dernièrement aussi dans un restaurant à Carcassonne. Est-ce qu'il peut prendre feu ?
Alors, c'est pas le compteur qui prend feu. C'est en réalité des compteurs qui ont été mal posés. Il y a deux ou trois vis, je crois qu'il faut visser correctement. Si elles sont mal vissées, ça peut provoquer un incendie.
Alors, parce qu'on nous a dit quand même aussi que parfois ils sont installés à la va-vite par des électriciens qui doivent en poser toute la journée dans des sociétés sous-traitantes.
Alors je ne sais pas s'ils sont posés à la va-vite, il faudrait demander à Enedis, hein, que c'est Enedis qui en sait beaucoup plus là-dessus. J'ai entendu à la radio d'ailleurs quelqu'un qui expliquait que il y a eu le feu dans sa maison, il est passé devant le compteur Linky qui avait été installé six mois ou quelques jours avant, et qu'il y avait des étincelles qui sortaient du compteur. Ben, si vous mettez le feu à votre compteur électromécanique, mécanique, il y aura aussi des étincelles.
Okay. Voilà. Les ondes émises par le compteur Linky sont-elles dangereuses pour la santé, voire cancérogènes, comme certains le disent ?
Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des ondes, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a l'Agence nationale des fréquences et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui se sont penchés sur la question et qui ont conclu que le niveau d'émission qui était induit par le compteur Linky était le même du même ordre de grandeur que celui des autres des compteurs précédents et qu'il était très inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Ok. Dernière question. Les techniciens d'Enedis peuvent-ils couper l'électricité d'un simple clic quand on n'a pas payé sa facture ? Je témoigne, oui. Quand j'avais des problèmes avec mon Linky, on m'a menacé. On m'a dit si vous ne payez pas, Madame Flamand, elle va vous couper l'électricité. C'est ce qui s'est produit. Donc techniquement, c'est possible.
Alors, les pouvoirs publics ont décidé que en cas de coupure d'électricité pour impayé, elles ne peuvent être mises en œuvre qu'après qu'un technicien du gestionnaire du réseau de distribution se soit déplacé.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir éclairci toutes ces zones un petit peu d'ombre, je dirais, sur ce fameux compteur qui, lui, est très lumineux. On le voit bien parce qu'il est jaune fluo. Olivier Chaland-Belval, merci d'avoir accepté mon invitation ce samedi matin. Je rappelle que vous êtes médiateur national de l'énergie.
Merci.
À propos d'énergie, justement, on n'a pas besoin d'un Linky, on a besoin d'écouter Zouk Machine et puis ça repart comme en 40. Bonjour Sylvie Metzelaar.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste pour 60 millions de consommateurs. J'imagine que vous avez déjà abordé le sujet du Linky dans votre magazine.
Ah oui, de nombreuses fois.
Ça ne m'étonne pas. En tout cas, vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. 60 millions de consommateurs qui s'intéressent aux produits ménagers. Alors, la grande question, parce qu'on s'intéresse aujourd'hui justement à l'impact sanitaire et environnemental, est-ce qu'il existe des produits ménagers qui sont efficaces ?
Alors, efficaces, oui, mais alors sans impact du tout, hein, environnemental et pour la santé, ça n'existe pas parce qu'on a quand même affaire à des formules chimiques. Hein. Mais oui, on trouve des produits ménagers qui sont à la fois efficaces et acceptables pour notre santé et l'environnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a trouvé vraiment dans toutes les catégories de produits.
Ah bah ça, c'est bon. Et voilà, et ça, on va en parler justement. Ouais. Quelles sont les substances particulièrement nocives pour la santé dont vous nous parliez à repérer sur l'étiquetage des produits ménagers ?
Alors, le problème, c'est que les étiquetages, il n'y a pas grand-chose dessus, mais c'est en fait, dans les substances vraiment à éviter qu'on peut retrouver, c'est tout ce qui est à base de thiazolinone. Donc, dès que vous voyez thiazolinone, il faut oublier les ammoniums quaternaires et les parfums, notamment le limonène. Alors, en fait, il faut savoir que toutes ces substances, c'est très irritant ou sensibilisant et mieux vaut ne pas les multiplier. On retrouve beaucoup de ces substances pas terribles dans les désinfectants, notamment.
Et pardon, je vais vous poser la question comme ça. Limonène, ça a un rapport avec
le citron ou tous les agrumes.
On nous met du citron partout en disant ça va sentir bon dans la cuisine.
Ouais, mais c'est ultra irritant et sensibilisant.
Bon, bah très bien, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on peut acheter des produits multi-usages ou est-ce que vous conseillez d'acheter un produit spécifique pour la cuisine, les WC, la salle de bain?
Alors, on voit là dans notre étude, les multi-usages s'en sortent super bien. Ah oui. On en a pas mal qui sont même très bien notés. Alors, en revanche, mieux vaut éviter les deux en un. C'est les produits qui sont à la fois nettoyants et anti-calcaire, nettoyants et désinfectants. Parce qu'en fait, ils sont vraiment rares ceux qui, à l'arrivée, ont de bonnes performances de nettoyage.
Il y a des marques qui sortent grandes gagnantes de votre étude?
Alors, il n'y a pas vraiment de grandes gagnantes, mais on peut dire qu'il y a beaucoup de produits labellisés qui s'en sortent très bien, à la fois en termes d'efficacité et de toxicité. Alors, on croit souvent que les produits verts, enfin les, ou écolos, comme vous préférez, ils ne sont pas efficaces. Ça, c'est vraiment une idée reçue qui est très largement propagée. Et en fait, notre étude montre le contraire. On a vraiment des produits qui sont respectueux de notre santé et de l'environnement et qui sont efficaces. Alors, il y a des bonnes notes, hein, comme avec Renette, Briochin, l'arbre vert, mais vraiment.
Bon, alors, il y a des bonnes notes et puis il y a des mauvais élèves, on va y arriver, justement. Qui sont-ils?
Alors, c'est plutôt les familles de produits des marques, en fait. C'est les désinfectants, alors c'est rarement... déjà, ils ne sont pas si efficaces, ce qu'on a dit tout de suite, mais c'est très irritant et c'est des produits qui sont très chargés en substances néfastes. Alors, on peut retrouver des produits où on a à la fois de la Javel et des autres substances biocides. Donc, c'est deux fois la même chose et ça veut dire aussi deux fois plus de cochonneries. Quoi.
Mais genre le sif,
un sif salle de bain par exemple, Javel plus tout le reste, ça fait vraiment vraiment beaucoup.
Oui, ça j'imagine, moi je trouve que ça fait un peu peur. Alors on est quand même dans une période là où on a besoin de désinfectants, où on a besoin d'avoir un intérieur le plus propre et clinique, je dirais, possible. Donc certains se sont jetés sur des produits qui sont a priori attractifs, en tout cas dans leurs promesses. On va y revenir dans un instant, on va faire le tri avec vous. Sylvie Metzeler, à tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Tout à l'heure, on va se prendre une petite prune. Bon, c'est pas vraiment l'heure de... On va parler de la prune, la vraie, le fruit, avec Sonia Esgulian. Mais pour l'heure, allez, on fait le tri dans nos placards des produits ménagers avec Sylvie Metzeler. Alors, il y a des bons points, il y a des mauvais points dans votre étude, dans 60 millions de consommateurs. Sylvie, merci d'être là et de nous permettre de faire le tri. On l'a compris, ce n'est pas parce que le produit est cher qu'il est forcément bon. Quand un produit fait plusieurs promesses à la fois, c'est-à-dire désinfectant et je ne sais pas, odorant ou doux pour les mains, ça n'est pas bon non plus. Il faut calmer le jeu sur les promesses, peut-être aller plus à la simplicité. Et puis, on peut parfois se tourner, mais il faut lire votre étude, vers les produits des marques de distributeurs. Quels sont vos conseils pour nous préserver des émissions toxiques des produits ménagers? Puisqu'on l'a bien compris, de toute façon, on n'aura jamais un produit parfaitement vert, bon pour la santé et bon pour la planète.
Alors, je pense qu'il faut déjà limiter les sprays, si c'est pour les émissions toxiques, ça c'est très important. Et surtout, aérer après, pendant, enfin, le plus souvent possible, avant ménage, après ménage, pendant ménage. Ben, c'est vraiment capital, parce qu'on a fait un test pour voir ce que dégageaient les produits cuisine. Alors, tous, sans exception, dégagent des cochonneries. Alors, on aurait eu exactement les mêmes résultats avec des produits salle de bain, hein, par exemple. Donc, voilà, c'est capital. Il faut vraiment faire ça. Et puis, tant qu'à faire, limiter le nombre de produits. Okay. Plus on utilise de produits, plus on fait d'émissions.
Et vous nous conseillez de porter des gants?
Ben, c'est toujours mieux, parce que déjà qu'on a les mains tout abîmées avec, avec les gels, c'est vrai, c'est les sprays et toutes les solutions liquides, il vaut mieux les appliquer à l'éponge et avec des gants, tant qu'à faire. Moins on est en contact avec les produits, mieux c'est.
Alors, quid des désinfectants en ces temps de Covid? On nous a, alors franchement, on nous a promis mais plein de trucs. Moi, je suis allée faire mes courses, évidemment, très régulièrement, comme tout le monde, et j'ai été tentée d'acheter des produits ultra désinfectants. On vous garantit vire 99,9% des bactéries, pas de virus sur les mains, pas de virus sur les meubles. Est-ce que c'est bon, ça?
Alors, il y a différentes choses. Alors déjà, pour les désinfectants en temps de Covid, si à la maison, vous n'avez pas de personnes fragiles ou souffrant de Covid, les produits désinfectants, ce n'est pas du tout indispensable. Un nettoyant ménager simple à base d'un tofu actif, du savon, si vous préférez, ça suffit.
D'accord.
Alors, Pourquoi ? Parce que le virus, en fait, alors, je suis pas une spécialiste mondiale du virus, hein, que ce soit clair, mais je me suis fait expliquer par l'ingénieur chimiste qui a travaillé avec nous sur le sujet. Le virus, il est entouré d'une membrane lipidique, c'est de la graisse en fait. Ah oui. Et le savon, il en vient tout à fait à bout sans difficulté.
D'accord.
Alors, sinon, vos 99,9% de bactéries en moins. Alors, vu la vitesse à laquelle prolifèrent les bactéries, les colonies ont vite fait de se refaire. Donc, s'il vous en reste 0,09, ça va revenir, hein, forcément. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, ce genre d'allégation.
Ok, ouais. Très bien. Alors, les produits, le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon noir, ça, c'est une alternative naturelle. Alors, ça ne sent pas le citron, ça sent parfois même très fort, hein, le vinaigre blanc. Mais ce sont des super alternatives.
Ah oui, bien sûr.
Ça coûte moins cher.
Ça coûte moins cher, ce sont des bonnes alternatives, ça marche assez bien et tout. Alors, il faut juste faire attention d'utiliser ces produits en suivant bien les conseils d'usage et surtout pas faire de mélange parce qu'on peut avoir vraiment des trucs détonnants après et vraiment vous pouvez inhaler après des substances qui sont vraiment très 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 irritantes et vous flinguez les bronches, hein, faut appeler ça comme ça, notamment avec des mélanges avec de l'eau de Javel en plus, du bicarbonate, enfin, tout ça, ne mélangez pas les produits, regardez bien les notices. Alors, il faut faire aussi attention avec le vinaigre blanc. Alors, non pas sur les risques qu'on peut avoir avec, mais s'il est très fort pour enlever le calcaire, ça, c'est vraiment... c'est de la luge, hein, pour le calcaire. Il ne tue pas le virus. Ce n'est pas du savon. Donc, ce n'est pas avec du vinaigre blanc que vous allez nettoyer vos surfaces pour effacer d'éventuelles traces de virus, de coronavirus.
Ah d'accord, parce que moi, je lave mes légumes avec du vinaigre blanc. Ce n'est pas le sujet du jour, mais pensais que ça avait un impact, justement. Ça n'en a pas.
Non. Non.
Bon, mais en tout cas, c'est bien, coûte moins cher, c'est plus naturel. Et effectivement, il ne faut pas faire de mélange complètement délirant. Mais néanmoins, c'est une alternative qui est bonne pour le porte-monnaie, je dirais, et bonne aussi pour la santé et l'environnement. Merci beaucoup, Sylvie Metzeler, pour tous ces conseils. On sait ce qu'on va faire en ce samedi. On va aller briquer
Merci
les maisons.
Vous.
Très bientôt. Et on conseille 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. À bientôt, Sylvie. Merci.
À très vite. Au revoir.
Ouais, mais les blondes, c'est pas mal non plus. Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour Flavie.
Vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. Merci d'être avec nous. Moi, je suis votre page Instagram qui est forcément toujours très gourmande et qui nous donne envie de faire plein de choses. On va se prendre une petite prune.
Mais alors dans le bon sens du terme, hein, parce que normalement prune ça veut dire un coup qui fait mal. Donc,
ouais, quoi qu'il arrive, que ce soit la contravention ou le petit verre de prune en digestif, en général ça fait mal quoi. Bon, et dites-moi, c'est la saison, il y en a partout.
Ah oui, alors là depuis fin août, donc depuis presque hier, on a toutes les prunes en ce moment en même temps. Parce qu'il y en a certaines qui commencent début août, d'autres un petit peu fin août. Mais là, on les a toutes en même temps. Et on va les avoir jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Donc, il faut en profiter tout de suite à fond.
Mais je rêve ou elles sont plus chères que les années précédentes ?
Mais tout est plus cher cette année. C'est une catastrophe.
Ouais, c'est quoi, c'est la météo ?
La météo catastrophique, le vent, les orages. Voilà. Donc, au marché, malheureusement, tout est beaucoup, beaucoup plus cher.
Les stars des prunes sont quoi ? Les Reine Claude, Mirabel, Quetch ?
Bah après, c'est chacun un petit peu son petit palmarès. Moi, j'avoue que j'ai une petite tendresse pour la Lorraine, la Mirabelle, en fait.
J'aime beaucoup cette
toute petite
Mirabelle.
Prune jaune qui est pigmentée de rouge, qui est toute douce. Alors ça, cette Mirabelle, elle est un petit peu fragile. On la trouve vraiment fin août, là, tout maintenant, jusqu'à encore une quinzaine de jours. Alors là, on peut en faire tout ce qu'on veut, hein, des flans, etc. Moi, je l'adore dans les plats salés. Très souvent, quand je fais une cocotte, par exemple avec un rôti ou alors un poulet au four, dès que le jus a bien, on va dire un petit quart d'heure avant la fin de la cuisson, je mets les prunes entières dans le jus. En fait, ça va aciduler le jus et ça va faire une toute petite compotée qui sera comme un condiment. Et là, je peux ajouter une pointe de piment. Et là, franchement, les prunes, c'est quelque chose de divin.
La reine Claude, c'est vrai d'ailleurs qu'elle tient son nom de la reine Claude de France, la femme de François, le
Alors,
premier.
En fait, En fait, la reine Claude, c'est une prune qui avait été offerte par Soliman le Magnifique, un ambassadeur passé en Turquie, a rapporté au roi de France, donc à François Ier, cette prune extraordinaire qui était d'origine asiatique. Et elle a été nommée ainsi en hommage à la femme du roi, Claude, qui était une sorte de bienfaitrice. Et comme cette prune était absolument délicieuse, on trouvait que c'était joli de l'appeler reine Claude.
C'est une jolie histoire. Dites-moi, il y a quand même parfois, on va y revenir dans un instant, moi je trouve certaines prunes qui n'ont aucun goût. Il m'arrive d'en voir parfois des roses, des rouges, j'ai envie de les goûter et puis j'en achète. Et puis après je me dis, mais non, c'est comme de la flotte, ça n'a pas de goût. On dirait qu'elles sont un petit peu tristounes. On va y revenir avec vous dans un instant. Vous allez nous expliquer comment bien choisir sa prune. Ça va être le petit chapitre sexy, parce que j'imagine qu'il faut qu'elle soit ferme, souple, tout team. Et puis, vous allez nous livrer évidemment des recettes. On est en forme le samedi matin sur RTL. A tout de suite, Sonia Esguignan.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous avez vu, il y en a partout en ce moment sur les étals des maraîchers. On parle de la prune avec Sonia Esguignan. Est-ce que vous avez déjà mis une recette de prune sur votre page Instagram, Sonia ?
Ah oui, plein.
Ah oui, parce que c'est vraiment l'éclate.
La quetch, oui. J'avoue que celle-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est une prune, alors c'est une alsacienne, à la différence de la Mirabelle qui est lorraine. La quetch, elle me plaît parce qu'elle elle tient bien. Donc elle supporte des cuissons un peu longues. J'aime bien par exemple faire une tatin de couette, je trouve que c'est superbe. Et puis j'aime bien aussi faire des petites brochettes. On prend du romarin, c'est tout simple, hein, on les pique. Et puis à la fin du barbecue, on fait parce que souvent on fait un peu la fête quand même. Donc à la fin du barbecue, on est un peu raisonnable et on mange un dessert léger. Donc une petite brochette de romarin avec des couettes, c'est tout simple et très très bon.
Alors ça veut dire qu'en fait je coupe mes couettes, j'enlève le noyau.
Oui, vous les coupez en deux, vous avez des petits oreillons. Ouais. Et puis là, avec un brin de romarin, c'est assez facile parce qu'ils sont le brin, quand il est dans la partie basse, il est assez dur. Et donc ça permet de... On garde les petites feuilles, hein, les petites tiges, parce que c'est joli, puis ça va bien parfumer. Et dès qu'on va le passer sur le barbecue, ça va durcir, donc ça va être très facile à enlever après. Et ça va parfumer la couette. Évidemment, on essaye de ne pas rajouter de sucre, hein, parce que si, comme toujours le conseil que je donne, si on achète des fruits à maturité, il n'y a aucune raison de les sucrer. Donc c'est top de les acheter mûrs, donc pas trop trop durs quand même.
Juste une question avant de poursuivre, Sonia Esguignan. Pourquoi il y a certaines prunes qui sont aussi déceptives ? Vous êtes d'accord avec moi ?
Alors j'ai remarqué, je ne sais pas, ça peut-être que les gens pourront m'éclairer, on attend des réponses si on en a, mais souvent quand les prunes sur le marché ou alors au supermarché, quand elles sont présentées et qu'elles n'ont pas un nom familier, genre moi ça m'est arrivé de voir marqué prune verte, prune jaune, prune rouge,
voilà.
C'est bizarre quand même, pourquoi elles n'ont pas un nom, parce que normalement les prunes elles ont un petit nom. Là, c'est très étrange, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement jolies, elles ont une très belle couleur, mais le goût est absolument absent.
Donc, ça n'a aucun intérêt.
Voilà, elles sont juteuses, mais un jus qui a un goût d'eau. Donc, je pense qu'il faut quand même se fier justement aux variétés. Donc, dans la mesure du possible, essayez de voir, par exemple, des reines Claude. Il y en a une que j'aime beaucoup, elle s'appelle la reine Claude d'Oulin. C'est une reine Claude qui est très jaune avec un petit peu des taches vertes. Eh bien, quand on tombe sur ce genre de fruits, on adopte. Il y a aussi la reine Claude Dauphine qui est très, très parfumée. Et pareil pour les autres. En fait, souvent, la Mirabelle de Nancy, quand elle a son... Surtout qu'elles ont quelquefois des labels rouges, par exemple comme la Mirabelle ou des IGP. C'est sûr que là, il vaut mieux se fier à certaines origines, parce que sinon, si c'est juste une appellation avec la couleur, c'est quand même assez étrange.
Est-ce qu'elles font grossir les prunes ?
Non, pas trop. Alors, c'est justement... Le fruit topissime. Je ne peux même pas vous faire la liste des bienfaits, tellement il y en a. Le fer, le magnésium, les antioxydants, la vitamine C. Enfin, C'est une liste interminable, ça c'est magique. Alors évidemment, comme tout, on en mange avec modération, mais c'est un fruit qui est pas trop sucré. Alors attention quand vous les mangez sèches, hein, parce que le pruneau c'est une prune séchée. Ça peut être quelquefois assez sucré. Mais sinon, la prune comme ça à déguster, c'est excellent pour la santé.
Alors faut pas en manger trop non plus, parce que c'est un peu laxatif l'histoire, non?
Alors, ça peut faire du bien justement quand on est un peu constipé. Non, alors le principal problème, bon bah puisqu'on est dans la poésie, le principal problème ce sont les flatulences.
Ah bah j'allais y venir. Donc tout ça c'est normal.
Alors les flatulences, pourquoi? Parce que ce fruit magnifique est très riche d'un sucre qui s'appelle le sorbitol, et ce sorbitol il provoque des gaz. Donc évidemment, si on en mange beaucoup, okay. Voilà, on a ce petit problème de flatulence. Non, mais avec modération, c'est top, parce que du coup, effectivement, c'est bien, ça régule pour les intestins, mais il faut en manger voilà, avec modération.
Bon, et on y va pour la recette?
Oui, on y va franchement pour la poésie, parce que là,
à
merci.
Fond, hein. À fond. Allez, je vous écoute.
J'aimerais vous parler d'une petite tarte toute simple, inratable, parce qu'on n'a pas besoin de faire une pâte compliquée. On prend des spéculoos, mais on peut le faire aussi avec des biscuits bretons ou une autre galette. On prend 250 g de spéculoos qu'on va mixer en chapelure très fine. On va ajouter 125 g de beurre, un œuf, un petit sachet de levure chimique, ça c'est pour aérer la pâte, et on étale cette préparation dans un fond de tarte. C'est à peu près pour 8-10 personnes, le plat dont je vous parle. Ensuite, on va prendre à peu près 500 g de prunes. En fait, on voit en fonction de la taille des prunes. On peut faire un truc très sympa, c'est marier différentes variétés de prunes. Par exemple, les reines Claude avec des quetches. D'abord, ça fera des couleurs différentes et puis des goûts différents. On aura un peu plus acidulé, un petit peu quand on fait comme on fait la tatin avec différentes variétés de pommes. Et là, on va mettre tous nos oreillons en fait de prunes sur ce fond de pâte. On enfourne 35 minutes à 200 degrés, c'est déjà fini, on laisse refroidir et on sert ça nature avec un peu de crème fraîche ou une petite boule de glace vanille, et c'est le paradis.
Ah ben on y est là, rien qu'en vous écoutant on y est, on va s'y mettre aujourd'hui. Merci beaucoup Sonia Esguillian pour cette recette.
Merci,
et
Flavie.
Cette conversation gourmande. Donc je rappelle votre page Instagram. Je vous embrasse, à bientôt Sonia.
À bientôt.
À bientôt, parce que oui, c'est déjà le moment de se dire au revoir. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien, et bien je vous invite à réécouter l'émission d'aujourd'hui ou sur l'appli RTL ou sur Radio Player France. Et puis vous retrouverez la recette de Sonia Esguillian également sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dès lundi, ce sera à 20h sur RTL pour Jour J, votre magazine qui revisite les grands événements qui nous ont tous marqués. C'est passionnant, vous verrez. Et puis juste après les infos, c'est RTL qui continue de vous régaler. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end. À l'écoute d'RTL, je vous embrasse.